Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui 1er décembre 2022 pour notre émission spéciale du jeudi matin. Vous êtes sur notre chaîne de radio, Radio Jeune Actu, en partenariat avec Radio Coteau. Vous êtes accompagné de moi, Gabin, l'animateur de l'émission. Notre chronique traitera de la laïcité en Turquie avec l'abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal, à partir d'exemples. Vous vous en doutez sûrement, mais je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai l'honneur d'accueillir avec moi Hugo, qui se chargera des titres d'actualité. Ensuite, nous accueillerons Léry, chargé de la revue de presse. De son côté, Nicolas a choisi deux extraits de musique où il expliquera par la suite le rapport avec notre sujet. Je remercie aussi Arnaud qui s'occupe du streaming de l'émission et enfin Gabriel qui s'occupe de la mise en ligne de l'émission sur Radio Jeune Actu pour que vous puissiez réécouter l'émission si vous le souhaitez. Je vais donc laisser la parole à Hugo afin qu'il puisse nous présenter les titres d'actualité. Bonjour Hugo, je suis ravi de t'accueillir sur l'émission d'aujourd'hui. Il est temps pour toi de nous rappeler les titres d'actualité s'il te plaît.
Bonjour Gabin et bonjour à tout le monde. Je vais à mon tour vous parler de différentes actualités en rapport avec la laïcité. Tout d'abord des problèmes de laïcité dans des lycées et collèges, ensuite près de Nogaro avec un spectacle dans deux écoles primaires, et enfin à Grenoble dans des piscines municipales. Pour commencer, un phénomène récent se passe dans les institutions publiques en France. En effet, lundi 17 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin et la secrétaire d'État Sonia Backès ont adressé un mot au préfet. Il leur est demandé de soutenir la communauté éducative dans une indispensable réaction de grande fermeté face aux atteintes à la laïcité à l'école qui se multiplient depuis la rentrée. Le ministre de l'Éducation a estimé que la loi de 2004, qui interdit au sein des enseignes scolaires les vêtements ou signes religieux ostensibles, devrait être appliquée de manière stricte et ferme. Les chefs d'établissement doivent prendre leurs responsabilités et interdire l'accès à ces élèves à l'origine de ces comportements. En l'occurrence, sur 313 signalements recensés en septembre, plus de la moitié sont liés au port de signes et de tenues religieux. Au premier trimestre de 2022, 22% étaient liés à cet incident contre 41% au deuxième. La loi n'est pas respectée correctement et est même contournée par le port d'abaya ou de camis. Il faut également sanctionner ces élèves et séparer nettement leur religion des institutions publiques.
Est-ce que des spectacles, par exemple, ont été réalisés en France pour évoquer la laïcité et le vivre ensemble ?
Oui, en effet, plus proche de chez nous, à côté de Nogaro, dans l'école primaire d'Arblade-le-Haut, un spectacle a été réalisé par trois acteurs de la compagnie à pied d'œuvre. Sylvain Borens, Juliette Damien et Laetitia Bressy. Elle a été écrite par Pierre Léoutre et Laetitia Bressy. La représentation a eu lieu le 5 avril à l'école d'Arblade-le-Haut et l'autre à Saint-Griel. On voit que dans la pièce, la petite fille Marianne souhaite la paix dans le monde, mais que la multitude de croyances pose problème pour vivre ensemble et que la tolérance ne suffit pas, car le principe de laïcité insiste sur la séparation et non la coopération entre Église et État.
Est-ce que des villes peuvent être modifiées leur règlement intérieur pour autoriser des ports d'habits religieux par exemple ?
La ville de Grenoble a modifié le règlement intérieur pour autoriser le port du burkini dans les piscines municipales, ce qui porte atteinte à la laïcité en France. Le burkini, un maillot de bain couvrant porté par certaines femmes musulmanes, est un vêtement religieux qui ne doit pas être porté dans des institutions publiques. Alors, le Conseil d'État a tranché, mardi 21 juin, en se prononçant dans le cadre d'un déféré laïcité pour lutter contre le séparatisme et demander la suspension de l'exécution de cette autorisation dans ces piscines.
Merci Hugo. C'est maintenant au tour de Léry de nous présenter sa revue de presse. Bonjour Léry, je suis ravi de t'accueillir sur Radio Jeune Actu. C'est à toi de nous présenter ta revue de presse.
Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma revue de presse avec deux articles. Le premier traitera d'une cathédrale d'Istanbul devenant une mosquée. Et le second parlera de la réaction du pape François à cette nouvelle. Le premier article est un article de Antoine Arjakovski, publié sur Slate le 29 juillet 2020, ayant pour titre « La transformation de Sainte-Sophie en mosquée ». Une provocation du gouvernement turc. Le second article est publié sur Le Point le 12 juillet 2021. Son titre est « Le pape François se dit très affligé par la reconversion en mosquée de Sainte-Sophie ». Le vendredi 24 juillet 2020, le gouvernement turc a ouvert aux prières musulmanes l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie, construite en 537 par l'empereur Justinien. Une condamnation de cette décision a été déposée par Bartholomée Ier, le patriarche œcuménique de Constantinople. Pour lui, cette transformation de la basilique classé comme un musée, en mosquée, risque de tourner le monde chrétien contre l'islam. Le Conseil œcuménique des églises, qui regroupe plus de 300 églises chrétiennes, a également demandé au président turc, Recep Tayyip Erdogan, de changer sa décision au plus vite. Le pape François s'est dit publiquement très affligé de la décision d'Ankara, capitale cosmopolite de la Turquie. Je cite « Ma pensée va à Istanbul. Je pense à Sainte-Sophie. Je suis très affligé. » Ces paroles représentent le premier commentaire du Vatican à la décision turque.
Qu'a fait donc le gouvernement turc face à ces oppositions ?
Malgré ces vives réactions émanant des leaders religieux, représentant plus de 2 milliards de fidèles dans le monde, mais aussi de l'UNESCO et de dirigeants politiques, comme la présidente grecque, le gouvernement turc est resté inflexible. Selon le journal grec Tanea, la politique étrangère a joué un rôle déterminant dans cette décision. Je cite, non, Erdogan n'a pas décidé de transformer Sainte-Sophie en mosquée pour démanteler l'héritage kémaliste. Cette initiative est une manœuvre purement géopolitique, minutieusement élaborée à Ankara et à l'étranger. C'est l'alliance militaire et commerciale stratégique conclue avec la Russie et le mépris d'Erdogan pour Washington et pour l'OTAN qui en résulte, qui constitue la motivation première et définitive d'une décision dont la nature et le timing laissent tout de même perplexe.
En quoi la cathédrale Sainte-Sophie est-elle importante aux yeux des chrétiens ?
La cathédrale Sainte-Sophie était dédiée à la sagesse de Dieu. De nombreuses légendes entourent ce bâtiment religieux. On murmurait autrefois que les portes de la cathédrale ont été formées avec le bois de l'Arche de Noé. Pendant un millénaire impérial d'églises chrétiennes jamais construites, c'est pour cela qu'il est urgent de trouver des solutions afin d'éviter que cette crise ne dégénère en de nouveaux affrontements politico-religieux. Merci de m'avoir écouté.
Merci Léry. C'est désormais à Arnaud de lancer l'extrait choisi par Nicolas.
Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa.
Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Topkapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.
présenter un extrait de la chanson Izmir Marsi, qui est une musique composée et interprétée par Aluc Levent en 2017. Cette musique est un éloge de Mustafa Kemal, qui était le premier président de la République turque. J'ai choisi cette musique car on voit que Mustafa Kemal est un véritable héros pour les Turcs qui sont encore attachés à lui, 80 ans après sa mort.
Merci Nicolas, on se retrouve plus tard pour ton deuxième extrait. Dès à présent, c'est Zoé qui va nous parler de son sujet. La parole est à toi Zoé, nous t'écoutons.
Bonjour Gaben, bonjour à tous. Je vais vous parler de la laïcité en Turquie avec l'abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal. Qui est Mustafa Kemal? Qu'a-t-il fait? Est-il le père d'une conception particulière de la laïcité? Kemal Atatürk, ou plus communément appelé Mustafa Kemal, né le 19 mai 1981 à Salonique, est un homme d'État turc. Il meurt d'une cirrhose à l'âge de 57 ans à Istanbul et il est le fondateur et premier président de la République de Turquie de 1923 à 1938. Il illustre lors de la Première Guerre mondiale où il devient un héros national grâce à sa contribution lors de la victoire sur les Alliés à la bataille des Dardanelles. Durant l'occupation alliée de l'Empire ottoman, il refuse de voir la nation être démembrée par le traité de Sèvres. Accompagné de partisans, il se révolte contre le gouvernement impérial et crée un deuxième pouvoir politique à Ankara. C'est de cette ville qu'il mène la résistance contre les occupants lors de la guerre d'indépendance turque. Sous son commandement, les forces turques vainquent les armées arméniennes et italiennes. Il défait ensuite les armées grecques qui occupent la ville. Et après la bataille de la Sakarya d'août à septembre 1921, la Grande Assemblée nationale de Turquie lui donne le titre de Gazi, donc le victorieux. Il parvient ensuite à repousser définitivement les armées grecques hors de Turquie. À la suite de ces victoires, les forces alliées s'engagent à quitter le pays. Après la proclamation de la République, il déplace la capitale d'Istanbul à Ankara et occidentalise le pays à travers plusieurs réformes radicales dans une volonté farouche de rupture avec le passé impérial d'Ottoman et islamique. Ainsi, il inscrit la laïcité dans la Constitution, supprime l'islam en tant que religion officielle, abolit les instances cariatiques, donne le droit de vote aux femmes et remplace l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Sous sa présidence autoritaire dotée d'un parti unique, la Turquie a mené une révolution sociale et culturelle sans précédent, généralement appelée révolution kémaliste. Le 24 novembre 1934, l'Assemblée lui donne le nom d'Atatürk, littéralement le Turc père.
Comment s'est déroulée l'abolition du califat ?
L'abolition du califat est une décision de la Grande Assemblée nationale de Turquie le 3 mars 1924, sur proposition de Mustafa Kemal, de mettre fin au califat islamique. À la suite de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres du 10 août 1920 prévoit le démantèlement de l'Empire ottoman qui appartient au camp des puissances vaincues, donc l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie. Dès la phase d'élaboration de ce traité, ce projet de démantèlement provoque en Turquie un sursaut national autour du général Mustafa Kemal. Une grande assemblée nationale de Turquie est constituée le 23 avril 1920 à la suite des élections organisées par le général Kemal. Ce dernier en devient président à l'unanimité. La signature du traité de Sèvres le 10 août 1920 et les succès militaires du général Mustafa Kemal accentuent le ralliement de la population turque au mouvement incarné par le général. Le 19 novembre 1922, le sultanat est aboli. Le dernier sultan, Mehmed VI, est déposé. Durant cette première étape de changement de régime politique, Mustafa Kemal dissocie le sultanat de Constantinople, pouvoir politique, du califat religieux, si les deux s'incarnaient depuis le XVIe siècle en un seul homme. Le califat est une chose très importante dans l'islam parce qu'il forme un lien sacré entre les musulmans, affirme encore le 1er novembre 1922 le président turc. Cette séparation entre les pouvoirs politiques et spirituels correspond à son choix de laïcité du nouveau régime. Le califat est donc maintenu dans cette première étape et Abdülmecid II est désigné nouveau calife. Le 3 mars 1924, toujours sur proposition de Mustafa Kemal, la Grande Assemblée nationale de Turquie vote aussi l'abolition du califat. Les raisons de l'abolition du califat sont essentiellement politiques, car le calife était devenu en quelques mois un des points de ralliement de l'opposition monarchiste et religieuse.
Que reste-t-il de la laïcité de Mustafa Kemal sous Erdogan aujourd'hui ?
En créant la République turque, Mustafa Kemal Atatürk impose une laïcité qui est en réalité une soumission de la sphère religieuse au pouvoir politique. Aujourd'hui, le président Erdogan puise abondamment dans le registre islamique, mais dans une perspective surtout nationaliste. Chaque année, le 26 août, il célèbre la bataille de Manzikert, qui vit en 1071 l'armée byzantine mise en déroute par celle du sultan Seljoudik Abd Arsalan. La vidéo postée cette année sur son compte Twitter offre, comme d'habitude, une reconstitution plus ou moins fantasmée des combats sur fond d'Allah Akbar et autres slogans galvanisants. Il y a eu des insultes, boycotts, confrontations entre navires dans la mer Méditerranée. Le président turc s'est laissé aller à toutes les outrances pour mettre en scène son rôle de reis, donc chef suprême, défenseur des intérêts du peuple turc et du monde musulman. Depuis son arrivée au pouvoir, Erdogan n'a pas vraiment changé la laïcité de Mustafa Kemal. En effet, la laïcité est toujours présente et l'État est séparé sous une certaine forme de religion. Cependant, l'islamisme se fait de plus en plus ressentir, notamment lors de la réhabilitation de l'église Sainte-Sophie en mosquée.
Merci Zoé. À présent, Arnaud va lancer le deuxième extrait choisi par Nicolas. Merci Arnaud. Nicolas, peux-tu nous expliquer ton second choix ?
Rebonjour, j'ai choisi pour ce deuxième morceau l'hymne national de la Turquie, excusez-moi pour la prononciation, İstiklal Marsi, qui fut rédigé par Mehmet Akif Ersoy et qui a été adopté comme hymne national le 12 mars 1921. La Turquie était en pleine guerre d'indépendance et avait donc besoin d'un chant réunificateur qui a été choisi entre 724 autres chants. J'ai choisi ce morceau car il montre l'unité des Turcs qui se battent pour leur indépendance et pour, dans le futur, leur république.
Merci Nicolas. Pour illustrer notre sujet, nous allons évoquer le choix de certains dessins humoristiques concernant le sujet de l'émission. Nous allons vous présenter 6 dessins humoristiques.
Bonjour à tous. Donc, le dessin de presse que nous avons choisi de vous présenter est intitulé « Turquie ». Erdogan remporte les élections législatives. Il a été réalisé par Mikaya et publié sur Rue 89 en novembre 2015. Pour ce qui est du contexte, le 1er novembre 2015, le parti AKP sur la justice et le développement appartenant à Erdogan a obtenu la majorité absolue lors des élections législatives à hauteur de 49,4% des voix. Sur ce dessin, en noir et blanc, nous voyons qu'il est divisé en deux parties. Une première intitulée « Une main de fer ». Ici, Erdogan est représenté en tailleur noir et il paraît en colère. En effet, on le voit à travers ses traits du visage. Donc, il a un regard noir, on voit qu'il bouge. Donc, ici, il saute. Il a les sourcils froncés et le poing levé. Ensuite, on le voit qu'il est en colère aussi à travers le fond gris foncé. Il dit dans une bulle « voiler les femmes » et « exterminer les Kurdes ». Ensuite, nous avons une deuxième partie intitulée « Dans un Erdogan de velours ». Ici, Erdogan est représenté en train de voter. On le voit car il dépose une enveloppe dans une urne fermée que l'on remarque avec un cadenas. Il paraît ici plus calme que sur la première partie, puisque le fond est gris clair, et il dit à travers une bulle « Vive la démocratie ». Donc, l'auteur, ici, insiste sur la double facette d'Erdogan. En effet, on voit d'une part qu'il se montre pour l'islamiste avec voiler les femmes, mais d'une autre part qu'il est aussi démocrate, en disant « Vive la démocratie ». ce dessin s'adresse avant tout à la population turque et il veut toucher en particulier ses électeurs et contribuer afin de contribuer à l'influence de l'islam turc. Il est réalisé contre l'AKP, donc le parti islamiste.
Ce document s'intitule « Turquie, victoire écrasante pour Erdogan ». C'est un dessin humoristique réalisé par Plantu. Il a été publié dans Le Monde le 5 novembre 2015. Ce dessin représente la victoire d'Erdogan lors des élections législatives. Sur ce dessin, on voit quatre personnes, dont Erdogan et trois femmes, puis une souris en bas à droite. Les trois femmes sont différentes. D'abord, celle de droite a une urne attachée derrière la tête avec un ruban. Ensuite, celle au centre est légèrement voilée et on aperçoit toujours l'urne. Enfin, celle de gauche est totalement voilée. En plus, on ne voit plus l'urne. Le dessin est en noir et blanc. Seulement deux éléments sont en couleur. Le drapeau turc et le bandeau sur le museau de la souris sont en rouge. Erdogan paraît heureux, les traits de son visage sont exagérés. En plus, il fait un signe avec sa main. On peut interpréter ce dessin sous la forme d'une évolution. La femme à droite a obtenu le droit de vote. Puis, la femme à gauche perd peu à peu sa liberté à cause du voile, malgré son droit de vote. On peut supposer que la souris est représentée avec un bandeau pour montrer que la presse n'a pas son mot à dire sur la situation. Ce dessin caricature l'évolution du droit de vote des femmes en Turquie. Il s'adresse au gouvernement turc et au reste du monde afin de faire passer ce message.
Le dessin s'intitule « Turquie, victoire écrasante pour Erdogan ». Il s'agit d'une caricature réalisée par le dessinateur Chapat. Le dessin de presse est paru dans The New York Times le 4 novembre 2014 et publié sur Cartoon for Peace le 5 novembre 2015. À ce moment, le contexte en Turquie est une période de répression turque envers les Kurdes, notamment contre les militants du Parti des Travailleurs du Kurdistan. Sur le dessin, on peut voir quatre personnages différents. Il y a deux commandants militaires à gauche, Erdogan au centre et un autre homme en costume à droite. Les hommes à gauche et Erdogan regardent un plan de bataille avec des flèches rouges. Il y a aussi un livre rouge où il est écrit « Démocratie ». Erdogan tend une urne de vote à l'homme en costume en disant « On n'a plus besoin de ça ». Pour l'interprétation, malgré que la Turquie soit une république, Erdogan porte le turban qui est un symbole des califes. Et il porte la démocratie dans sa main qui montre le contrôle de la démocratie et le plan de bataille représente les répressions turques envers les Kurdes. Le livre représente la volonté d'imposer une nouvelle constitution musulmane. Sur le livre, il est écrit « Nouvelle constitution pour les minorités kurdes ». Selon nous, le dessin est adressé au monde entier pour montrer les répressions sur les Kurdes, pour montrer l'influence de la religion musulmane en Turquie et le délaissement de la démocratie pour un gouvernement plus autoritaire.
La presse turque unifiée est une caricature de Joep Bertram, originaire des Pays-Bas. Elle a été publiée autour de l'année 2015 dans de grandes Amsterdamers. En effet, la presse en Turquie est sous contrôle après la tentative de putsch. Dans le document, on peut apercevoir la même personne de multiples fois, toujours Recep Tayyip Erdogan. Nous pouvons voir que l'artiste a accentué les traits de visage de Erdogan afin de le faire paraître comme un être malveillant. C'est une sorte d'affiche où Erdogan est représenté en tenue formelle et de manière péjorative. Il y est également inscrit une phrase « Unity Turkish Press » en majuscule. Cette caricature a pour but de critiquer l'emprise qu'a l'État turc sur la presse depuis les événements du coup d'État de 2016. Cette phrase dénonce également cette influence car depuis les mesures que l'État a prises, les journalistes sont de plus en plus persécutés, notamment le quotidien Cumhuriyet. Cette critique a pour cible le président Erdogan, mais également par extension son parti politique AKP, Parti de la Justice et du Développement. Elle s'adresse au peuple turc ainsi qu'au reste du monde, afin qu'il se rende compte de la situation complexe de la presse turque.
Merci Léry et merci à tous d'avoir été présents. Nous étions sur Radio Jeune Actu en partenariat avec Radio Koto, et c'est déjà la fin de l'émission du 1er décembre. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site Radio Jeune Actu en partenariat avec Radio Koto sur le sujet de la laïcité en Turquie avec l'abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal. À bientôt pour une prochaine émission.